En redescendant dans la grande salle, Guccio trouva Damelia Belle en compagnie de ses deux fils qui venaient de rentrer. Le visage creux, les yeux brillants de fatigue, les vêtements déchirés et mal rapiécés, Pierre et Jean de Cressay portaient eux aussi les marques de la détresse. Ils témoignèrent à Guccio la joie qu'ils avaient de revoir un ami. Mais ils ne pouvaient se défendre d'un peu d'envie et d'amertume à contempler l'aspect prospère du jeune Lombard. La banque, décidément, se défend mieux que la noblesse, pensait Jean de Cressay.
Notre mère vous a raconté. Et puis, vous avez vu Marie, dit Pierre. Admirez notre chasse de ce matin. Un corbeau qui s'était rompu la patte et un mulot. L'honnête bouillon pour toute une famille. Que l'on va faire avec cela, que voulez-vous? Tout est piégé. On a beau promettre le bâton aux paysans s'ils chassent pour eux-mêmes, ils préfèrent recevoir le bâton et manger le gibier. À leur place, on en ferait autant. Il ne nous reste que 3 chiens. Les faucons milanais que je vous ai donnés l'automne passé, vous font-ils bon service au moins? Demanda Guccio.
Les deux frères baissèrent les yeux d'un air gêné. Puis Jean, l'aîné, se décida à dire en tirant sur sa barbe
« Nous avons dû les céder au prévôt Portefeuille pour qu'ils consentissent à nous laisser notre dernier port. D'ailleurs, nous n'avions plus de quoi les acharner. »«
Vous avez eu grandement raison, » répondit Guccio.
« À l'occasion, je vous en procurerai d'autres. »
Ce blaireau de prévôt, s'écria Pierre de Cressay, ne s'est point fait meilleur, je vous jure, depuis la fois que vous nous avez tiré de ses griffes. Il est à lui seul pire que la disette, et il en double le mal.
J'ai vergogne, messire Guccio, de la petite chair que je vais vous offrir à partager, dit la veuve.
Guccio mis à son refus beaucoup de délicatesse, alléguant qu'il était attendu à son comptoir de Naufle.
Je vais faire en sorte aussi de vous découvrir quelques victuailles, ajouta-t-il. Vous ne pouvez continuer ainsi, et surtout votre fille.
Nous vous avons moult grâce de votre pensée, répondit Jean de Cressay, mais vous ne trouverez rien, fort l'herbe au long des chemins.
Allons donc, s'écria Guccio en frappant sur sa bourse. Je ne serai point Lombard si je n'y réussissais pas.
L'or même n'est plus d'utilité.
C'est bien ce que nous verrons.
Il était dit que Guccio, à chacun de ses passages dans cette famille, y jouerait le chevalier sauveur et non le créancier. Il ne songeait même plus à la dette de 300 livres jamais acquittée depuis la mort de Sire de Cressay. Il piqua vers Naufle, persuadé que les commis du comptoir Ptolomei le tireraient d'affaire.
Tels que je les connais, ils ont dû prudemment engranger, ou bien ils savent où se fournir lorsqu'on a les moyens de payer.
Mais il surprit les 3 commis serrés autour d'un feu de tourbe. Ils avaient la mine cireuse et le nez tristement pointé vers le sol.
« Depuis 2 semaines, tout trafic est arrêté, signor Guccio, » lui déclara le chef de comptoir. « On ne fait même point une opération par jour, les créances ne rentrent pas. Et il n'avancerait à rien d'ordonner saisie, on ne prend pas le néant des provisions de bouche.
» Il haussa les épaules.
« Nous allons faire festin tout à l'heure d'une livre de châtaigne, » poursuivit-il, « et nous en lécher les lèvres pendant 3 jours. Vous avez encore du sel à Paris ? C'est le manque de sel surtout qui fait les périr. Si vous pouviez seulement nous en faire parvenir un boisseau. Le prévôt de Montfort en a, mais il ne veut point le distribuer.
Ah, celui-là n'est privé de rien. Soyez-en certain, il a rançonné tout l'alentour comme pays en guerre.
Mais c'est une vraie peste, en vérité, que ce porte-fruit, s'écria Guccio. Je m'en vais lui parler, moi. Je l'ai déjà maté une fois, ce voleur.
Seigneur Guccio, dit le chef du comptoir, voulant engager le jeune homme à la prudence.
Mais Guccio était déjà dehors et remonté à cheval. Un sentiment de haine, comme il n'en avait jamais connu, lui écartelait la poitrine. Parce que Marie de Cressay était en train de mourir de faim, il passait du côté des pauvres et des souffrants. Et à cela seul, il eût pu s'apercevoir que son amour était vrai. Lui, le Lombard, l'enfant de l'argent, il prenait brusquement parti pour le clan de la misère. Il remarquait à présent que les murs des maisons semblaient suer la mort. Il se sentait solidaire de ces familles chancelantes qui suivaient les cercueils, de ces hommes à la peau collée sur les pommettes et dont les regards étaient devenus des regards de bêtes. Il allait planter sa dague dans le ventre du prévôt Portefruit. Il y était décidé. Il allait venger Marie, venger toute la province et accomplir un geste de justicier. Il serait arrêté, bien sûr. Il voulait l'être et l'affaire irait loin. Son oncle Ptolomei remuerait ciel et terre, messire de Bouville et monseigneur de Valois seraient avertis, le procès viendrait devant le Parlement de Paris et même devant le roi, et alors Guccio s'écrierait
« Sire, voilà pourquoi j'ai tué votre prévôt !»
Une lieue et demie de galop lui calma un peu l'imagination.
« Rappelle-toi, mon garçon, qu'un cadavre ne paie pas d'intérêt, »
avait-il entendu répéter par ses oncles banquiers depuis sa petite enfance. Au bout du compte, chacun ne se bat bien qu'avec les armes qui lui sont propres. Guccio, ainsi que tout Toscan aisé, savait assez convenablement manier les lames courtes, mais ça n'était pas là sa spécialité. Il ralentit donc à l'entrée de Montfort-la-Maurie, mit son cheval et son esprit au calme, et se présenta à la prévôté. Comme le sergent de garde ne lui montrait pas tout l'empressement souhaité, Guccio sortit de dessous son manteau le sauf-conduit scellé du sceau royal que Valois lui avait fait établir pour les besoins de sa mission à Naples. Les termes en étaient assez larges. « Je requiers tout bailli, sénéchaux et prévôt de porter aide et assistance » pour que Guccio pût l'utiliser encore.
« Service du roi, » dit-il.